au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Salut, pis sommes, chères grandes oreilles de la Judaïka, et Rundfunktu Herer. Nous sommes mi-janvier, il fait encore très froid, les journées sont encore bien maussades, sans trop de lumière, sich nur winterkel, vivement les beaux jours, mais il faudra encore attendre un tout petit peu. Alors, qui est ton invité ce beau matin, André Müller? J'ai fait une place à une grande dame vêtue de dentelle rose. Elle a plus de 1000 ans. Elle domine notre somptueuse ville de Strasbourg. Elle est majestueuse comme une reine en grès des Vosges. J'ai invité la façade occidentale de toute sa verticalité et ce matin, nous allons nous immerger dans toute la splendeur et les pierres sculptées de notre chère cathédrale. Et pour faire parler toutes ces statues et toutes ces pierres, j'ai invité un historien, auteur d'un bel ouvrage, Jean-Paul Lingelser, bien connu par plein de gens de Strasbourg. Merci à vous, cher Jean-Paul, de partager ce matin avec nous vos innombrables anecdotes, connaissances de cette grande dame de Strasbourg.
Oui, je suis très content de vous rencontrer toutes et tous pour vous parler de la cathédrale de Strasbourg, qui est un édifice extraordinaire, qui nous parle et qui nous fait découvrir un monde extraordinaire. Et
on va le découvrir ensemble ce matin, oui, pendant cette demi-heure. Alors, vous êtes l'auteur, Jean-Paul, d'un bel ouvrage, La cathédrale de Strasbourg, son décor et ses mystères. Un gros livre de 400 pages, 650 photos, aux éditions du Cygne.
Exactement. C'est un ouvrage qui est offert à tout le monde pour découvrir le décor et ses mystères de la cathédrale.
Et l'envers du décor aussi, hein, parce que vous connaissez plein d'anecdotes, ce qu'on va
Oui, tout à fait.
Même croustillante des années...
exactement. Il y a plein d'anecdotes autour de la cathédrale et plein d'histoires.
Mais avant de parler de la cathédrale, je voudrais quand même savoir, vous connaître un peu plus, vous aviez un autre métier avant d'être historien.
Oui, alors j'ai travaillé au CNRS, où j'ai fait de la chimie pendant de longues années. Et j'ai fabriqué des molécules de synthèse, c'est-à-dire des structures plus ou moins longues dont on a calibré la dimension.
Bah, attendez, parlez-moi en français, je ne comprends pas ce que vous me dites. Là, parlez-moi avec une image, parlez-moi avec des images.
Oui, alors ces substances ont des propriétés particulières. Par exemple, la viscosité qui ne change pas avec la température. Alors comme exemple concret, certains ingrédients que l'on peut mettre dans les huiles font que lorsque la température augmente, la viscosité ne bouge pas. Alors c'est extrêmement intéressant pour les huiles de moteur.
Ah ben là j'ai compris, pour un huile de moteur, ça veut dire que la température de la huile de moteur de la voiture,
c'est ça ? Ne doit pas bouger.
Ah ok, donc j'ai compris. Là, j'ai compris
la viscosité.
D'accord.
Avec la température.
D'accord.
Voilà.
Ben alors avant de continuer la cathédrale, on va peut-être écouter une toute petite musiquette que vous aimez. Je crois que vous aimez bien le Messie de Handel. On va écouter ça un petit peu ensemble ?
Volontiers, avec plaisir.
Ça vous met en joie, je vois, cette musique. Hein.
Oui, c'est très fort, c'est très puissant. Et je me rappelle avoir entendu ce concert à la cathédrale.
Ouais, ça doit être extraordinaire, une musique comme ça dans ces beaux murs.
Oui, qui résonne et qui nous fait vibrer.
Alors Jean-Paul, je sais aussi que cette grande dame en grès des Vosges vous a happé il y a bien longtemps déjà. Elle vous a interpellé, elle vous a appelé.
Oui, Alors, c'est vrai que c'est une histoire personnelle assez, assez curieuse, assez singulière. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Et j'avais travaillé dans les archives de la ville de Strasbourg, où j'ai rencontré, le directeur de l'époque, François-Joseph Fuchs,
ouais.
Et qui m'a fait tomber dans la marmite.
C'est pas vrai.
De ouais. la cathédrale.
En lisant les archives.
Voilà, parce que lui en était le président.
Ouais.
Et c'est ainsi que je suis arrivé à la Société des Amis de la cathédrale et je suis devenu son successeur en 1994 jusqu'en 2013 pendant 19 ans.
Ouais.
Et deux mois.
Mais c'est intéressant de fouiller dans la poussière des archives, comme ça, c'est
oui,
pas...
Oui, oui, c'est... Vous savez, l'histoire est cruelle. L'histoire est redoutable parce qu'elle nous confronte à la vérité, à la réalité des choses. Et là, je pense à toute une école d'historiens qui a existé à Strasbourg avec Marc Bloch, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup estimé, qui a fait des travaux remarquables. Et c'est bien la petite histoire, les annales, les événements qui se sont produits, qui ont conduit à des changements, à des bouleversements importants. Comme par exemple, hein, pour vous donner une petite idée, en 1770, il y a eu un assassinat à l'intérieur de la cathédrale.
C'est pas vrai. Un fait divers
ah ouais étonnant, avec le gardien qui s'est fait assassiner à l'intérieur. Et ce fait divers, les historiens de l'art l'ont ignoré. Et il a eu des conséquences énormes. C'est pour cette raison que pour éviter les intrusions,
ouais,
on a enlevé les boutiques qui étaient accolées au mur extérieur de la cathédrale pour éviter d'escalader et de pénétrer à l'intérieur. Et c'est ainsi qu'on a construit la fameuse galerie de Jean-Laurent Goetz autour de la cathédrale, une galerie néo-gothique qui en fait tout le tour et qui a été réalisée entre 1772 et ouais. 1778.
Mais là, Jean-Paul, vous parlez de magasins. C'était quoi des magasins autour de la cathédrale?
Il y avait toutes sortes de ventes d'objets divers.
Religieux?
Pas forcément, loin de là. Il y avait des chapeaux, des boutiquiers de toutes sortes, des objets divers, quelques livres qui étaient vendus, etc. etc. Donc, c'est tout un commerce qui était tout autour de la cathédrale.
Et en fait, vous êtes intarissable, vous connaissez tout, vous connaissez toutes les pierres. Racontez-moi des endroits où les gens ne peuvent pas aller. Vous aviez les clés à un moment de cette cathédrale.
Alors, il y a des endroits, effectivement, qui ne sont pas accessibles au public. Il y a des inscriptions qui se trouvent dans la tour de la cathédrale. Il y a notamment une plaque extrêmement intéressante qui date de 1776 et qui raconte et qui donne les noms de certain nombre de personnages avec Goethe, Lavater, etc., Herder. Et c'est la naissance du mouvement Sturm und Drang qui est né à Strasbourg avec le romantisme allemand, Tempête et Assaut, et ce romantisme allemand qui a magnifié, qui a glorifié aussi les monuments qui étaient tombés en ruine, hein, le château de Heidelberg,
ah
etc.
Oui.
Voilà.
Et alors, vous me racontez des choses très intéressantes, c'est quand même une chance extraordinaire de vous promener dans la cathédrale, d'avoir une clé, d'aller où vous avez envie d'aller, quoi. C'est parce que tout le monde n'a pas cette chance, tout le monde ne peut pas aller dans les petits recoins.
Alors, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir voir les fondations, de la
Alors
cathédrale.
Attendez, voilà, fondation, j'ai une question à vous poser. Les gens me disent souvent, même mon père me racontait ça quand j'étais petit garçon et ça me faisait rêver, qu'à la cathédrale, il y avait une nappe phréatique, on pouvait faire du bateau, de la barque.
Alors
racontez-moi ça.
Alors ça, c'est une histoire absolument incroyable qui était racontée par les chroniqueurs. Les gens venaient visiter la cathédrale, ils voulaient entendre le clapotis de l'eau.
Et alors ça n'existe pas.
Mais non, les gardiens faisaient des montages pour imaginer qu'il y avait un bateau qui pouvait circuler sur la nappe phréatique. Or, l'eau n'est pas présente à l'intérieur de la cathédrale. Il y a bien sûr une nappe phréatique qui existe.
Qui est en dessous de,
qui est un petit peu plus basse.
Plus bas, ouais.
Oui, oui.
Mais qui n'est pas dans... La cathédrale n'a pas les pieds dans l'eau.
Non, 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 non. C'est une légende. Ce qu'il y a eu, c'est que les fondations reposent sur des piquets.
Des pieux.
Des pieux que l'on a enfoncés dans le limon,
dans de l'argile, le limon, c'est comme de l'argile.
Oui, pour éviter le fluage des couches d'argile, pour éviter que l'argile bouge et pour stabiliser le sol comme Venise.
Ah oui, pareil.
Et donc, ces pieux se sont fossilisés et sont devenus durs comme de la pierre.
Pétrifiés, en fait.
Exactement.
Pétrifiés, ouais. Et c'est du chêne, je crois. Hein. Et ça vient de nos forêts alsaciennes, en fait.
Oui. C'est vrai qu'on utilisait du hêtre, du bouleau, etc., différentes essences pour enfoncer des pieux. Et c'est comme ça qu'on a stabilisé le sol. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la nappe phréatique n'a quasiment pas bougé, contrairement à ce qu'on a souvent imaginé pour la stabilité de la cathédrale. La nappe phréatique a été très stabilisée, même avec les canalisations du Rhin avec Tula.
D'accord. Alors, c'est très intéressant. Moi, j'ai lu une phrase intéressante dans le livre, et vous m'avez parlé un moment de ça aussi, quand je vous ai vu dans une petite librairie à la Robertso, quand je vous ai vu la première fois, quand vous avez dédicacé vos livres. Je crois que ça s'appelle Parenthèse, hein, c'est une petite librairie
Tout à
la Robertso.
Oui.
Et là, on s'est connus avant Noël, on
Exactement.
S'est rencontrés.
Exactement, avec plaisir.
Et en fait, ce que je voulais vous dire, ce que j'avais lu, que la cathédrale est une clé d'entrée de la connaissance. Parlez-moi un petit peu de cette phrase.
Oui. Ce qui est absolument étonnant, c'est que tous les domaines de la connaissance, toutes les disciplines peuvent être abordées à travers la cathédrale.
Ça veut dire quoi ?
L'architecture,
ouais.
La sculpture, les vitraux, la religion, la théologie, l'iconographie, les courants artistiques. Depuis Saint-Denis, Chartres, l'Île-de-France, le domaine économique, financier, juridique.
Tout ça, on l'aperçoit dans la cathédrale. Par quoi ? Par les sculptures ? Par
le fonctionnement. Écoutez, par exemple, les questions financières.
Ouais.
L'usure. L'usure est représentée à la cathédrale.
Par une sculpture ?
Exactement, par exemple, un personnage qui est entraîné par une corde pour aller dans la gueule du Léviathan, c'est-à-dire l'enfer, et au cou, il porte un immense sac, le magot, l'argent.
Ah oui.
L'argent qu'il a mal acquis, et il est attiré par les démons pour aller en enfer. Et c'est une représentation qui se trouve à l'extérieur de la cathédrale.
Ah d'accord, donc tout ça on peut le découvrir avec vous. Vous faites aussi des visites guidées avec des gens ?
J'ai déjà fait des visites guidées, oui, je connais tous les petits recoins et je connais les petites histoires.
Ah c'est bien,
voilà,
les anecdotes.
Anecdotes, ouais.
Alors,
voilà.
Moi j'ai une petite question à vous poser, c'est vrai que la cathédrale de Strasbourg, elle est sculptée en finesse. Est-ce que c'est dû à cause de ce grès des Vosges qui est plus facilement sculptable que d'autres cathédrales comme Reims, comme Chartres, parce qu'elles n'ont pas autant de fioritures que les nôtres ?
Alors, le décor est influencé par le style. Et c'est vrai que la cathédrale de Strasbourg pour l'essentiel, c'est le gothique flamboyant. Donc une période où l'architecture, la sculpture est extrêmement riche et variée et avec un décor extraordinaire, fabuleux.
Ouais, mais c'est presque comme de la dentelle de Calais quand on est sur la terrasse et on voit ce dôme, la flèche, le haut de la flèche, c'est de la sculpture, c'est de la dentelle de Calais, tellement c'est bien fait.
Oui, on peut parler de dentelle, la dentelle d'Alençon, etc. Ouais. Mais c'est vrai que les sculpteurs étaient extrêmement doués. Ce qu'il y a cependant, c'est que cette dentelle, elle est exposée aux intempéries, au gel, à la pluie, au vent. Et souvent, il a fallu resculpter, reconstruire.
Éternellement.
Exactement. Ouais. Ce qui est exposé à l'extérieur. Si bien que à l'extérieur, on n'a plus tellement toutes les sculptures d'époque.
Et justement, on parle de sculpture. J'ai une petite question qui me taraude. Est-ce que les sculpteurs étaient libres de travailler? Est-ce qu'il y avait une censure? Est-ce qu'ils pouvaient faire ce qu'ils avaient envie de faire? Ou c'est les architectes qui décidaient cela?
Alors, l'inspiration pouvait être donnée par des penseurs.
Des religieux?
Il y a eu des religieux qui ont joué un rôle important et je pense notamment à l'ordre des Dominicains. Et les Dominicains n'étaient pas loin, ils avaient leur couvent, là où se trouve aujourd'hui l'église du Temple Neuf. Et on en a la preuve parce que certaines représentations montrent l'existence, la présence des Dominicains. Et c'est très étonnant. Mmh. On a par exemple... au niveau des vitraux, on a la représentation d'Aristote qui est mis au même rang que les prophètes de l'Ancien Testament.
D'accord. J'allais juste vous parler des prophètes parce que je me souviens ce que j'ai lu dans votre livre. Toutes les statues regardent en fait vers le bas et jamais vers les cieux. Est-ce que c'est comme les prophètes en retour des contreforts, c'est pareil. Ils ont tous le regard en bas et jamais vers le haut. Pour quelle raison?
Alors, ils regardent les passants.
Ah, d'accord.
Ils sont des témoins, ils annoncent un message, et la preuve qu'ils annoncent un message, c'est qu'ils portent des phylactères, des banderoles, pour dire qu'ils veulent communiquer avec les hommes.
D'accord, parce que les hommes à l'époque ne lisaient pas, donc ils ne savaient pas lire.
Non, et les images leur parlaient. Parce que une sculpture, c'est un langage, c'est quelque chose que l'on découvre, qu'il faut expliquer, ouvrir les plis, déplier pour montrer la signification profonde de ce qui est représenté.
Très bien, mais écoutez, on va... écoutez une petite musiquette aussi que vous aimez beaucoup, que j'affectionne moi aussi. C'est le Requiem de Forêt quand les enfants chantent. On va commencer par une petite harpe, vous allez voir. Menez-nous ça, mon cher Thomas.
Thank you.
Qu'est-ce que c'est beau, hein. Ça donne des frissons, hein, le Requiem de Gabriel Fauré.
C'est superbe.
Ces enfants qui chantent, c'est extraordinaire.
Des voix divines.
Exactement. Vous pouvez... Alors, moi, ce que j'aimerais bien, Jean-Paul, aussi avec vous, c'est de me parler un petit peu de quelques petites anecdotes croustillantes. Je sais qu'il y a le plot sur Camille, ça vous dit quelque chose, ça?
Oui, bien sûr, c'est cette représentation de ce postérieur... à qui on attribue tous les courants d'air de la place de la cathédrale.
Mais... Ah, c'est joliment dit, ça, les courants d'air.
Mais voilà. Mais l'histoire est plus complexe. C'est le postérieur d'une femme qui est laide, qui est en train de donner naissance à une progéniture dont le père putatif est le diable qui est couché devant.
Ah oui, je vois très bien, parce que c'est sur la façade, oui. Sur le portail...
Oui, le portail central,
central.
C'est le tympan. Ouais.
Le tympan.
Le tympan.
Exactement. Alors, Jean-Paul, on parle, mais on veut aussi faire un jeu, parce que l'éditeur, les éditions du Cygne, va faire gagner un livre, votre livre, qui est magnifique, à nos grandes oreilles de Radio Judaïca. Et le premier qui téléphone gagnera un livre. Alors, c'est vous qui allez poser la question, Jean-Paul.
Oui. Alors, une petite question très sympathique. Quelle est la hauteur exacte de la cathédrale de Strasbourg, de la base jusqu'à la flèche? Est-ce que c'est 130 mètres, 142 mètres, 160 mètres? Quelle est votre bonne réponse?
Bah écoutez, on va voir. Moi, j'ai donné ce téléphone, donc les gens peuvent appeler, hein, nos auditeurs, au 03 88 36 11 67. Et le premier qui téléphone gagne votre magnifique livre. D'ailleurs, il est flamboyant, votre livre aussi, Jean-Paul. Vous avez dû travailler longtemps pour faire cela.
Oui, mais bon, c'était un plaisir de raconter un peu toute cette histoire. Et... toutes ces anecdotes, tous ces événements sympathiques ou truculents.
Ça représente combien d'années de travail, un livre, ce livre?
Quelques années. J'avais beaucoup de notes.
Vous preniez des notes quand vous vous baladiez dans la cathédrale?
Quand je fais des recherches aux archives, je prends des notes pour transcrire des événements, des petits faits divers sympathiques. Voilà, j'en ai trouvé beaucoup.
Et en fait, ce livre est sorti il n'y a pas très longtemps, juste un peu au mois de décembre. Juste bonne idée pour les cadeaux de Noël.
Ah oui, c'est une bonne porte d'entrée pour offrir quelque chose qui sort des sentiers battus.
Ben justement, pour offrir, les auditeurs qui téléphonent et trouvent la bonne réponse, j'ai juste rappelé le numéro de téléphone de notre standard de Radio Judaïca. C'est le 03 88 36 11 67 et vous pouvez gagner ce livre très rapidement si vous téléphonez tout de suite. Alors, Jean-Paul, racontez-moi encore et encore, j'ai encore envie de savoir plein de choses. La cathédrale a été construite sur un îlot où il y a pas de marécage, comme sur une île. Mais avant, je vais vous faire écouter une petite musiquette de Brel. On va mettre ça en place avant de me parler de ça.
Une île au large de l'espoir, où les hommes n'auraient pas peur, et douce et calme comme ton miroir. Une île claire comme un matin de Pâques, offrant l'océan longueur d'une sirène à chaque vague. Oh, viens, viens mon amour, là-bas ne serait point ces fous qui nous disent d'être sages.
Donc là, en fait, Brel, vous aimez beaucoup Brel, hein, vous m'aviez demandé de mettre une musique de Brel, une chanson de Brel. Et en fait, ça tombe bien parce qu'il parle d'une île. Et je sais que la cathédrale a été construite parce qu'il y avait des marécages autour. Ça avait été sur une île, non?
Alors, en fait, la cathédrale a été construite sur un petit monticule, légèrement surélevé, et qui était donc un lieu qui convenait parfaitement et qui a été choisi par les Romains qui avaient leur camp
à cet emplacement,
à cet endroit.
À cet emplacement. Et parce que tout autour, le Rhin n'était pas encore canalisé à l'époque. Et donc, le Rhin débordait tout le temps.
Le Rhin n'était pas canalisé. C'est Tulla qui l'a canalisé.
Ouais.
Le petit monticule était relativement bien préservé.
Très bien. Et alors, dites-moi, Jean-Paul, vous qui adorez cette cathédrale, comme tous les Alsaciens, et comme moi aussi, je suis strasbourgeois, je trouve cette cathédrale est extraordinaire. Quand vous êtes devant cette cathédrale flamboyante, quel est votre ressenti? Vous ressentez quoi quand vous l'admirez de nuit, de jour?
Une émotion et surtout aussi un sentiment
vous êtes ému,
de plénitude.
Ouais.
Avec cette beauté extraordinaire qui nous révèle qui nous sommes et qui nous place au cœur de nous-mêmes. Elle nous fait découvrir la plénitude du temps, la plénitude de l'humanité.
Ah, c'est beau ça, c'est beau. Ouais. Voilà. Et alors, quand vous êtes en haut sur la terrasse, vous êtes déjà engouffré dans la flèche en montant par ces petits escaliers en colimaçon?
Oui.
Vous n'aviez pas le vertige?
Eh bien, écoutez, je ne l'avais pas à l'époque. Je serais moins affirmatif aujourd'hui. Parce que c'est vrai que c'est vertigineux d'être tout en haut. J'ai même grimpé jusqu'au lanternon.
Jusqu'au
lanternon.
Mais en fait, là, il y a une échelle, non?
Il y a une échelle.
Waouh, mais vous étiez assuré,
J'étais avec... un guide de l'œuvre Notre-Dame qui m'a accompagné. J'ai fait cette escalade une fois dans ma vie.
Wow.
C'est splendide.
J'ai aussi eu la chance de faire ça un jour avec la télévision, faire des reportages. Parce qu'à l'époque, on avait les clés aussi de la cathédrale. Il y a bien une vingtaine d'années, quand on faisait des reportages par tout temps. Mais c'est vrai qu'elle est somptueuse, cette cathédrale. Et vous en parlez bien. Hein. Et dans le livre, en fait, racontez-moi un petit peu votre livre encore. Les photos, c'est vous qui les avez fait, ces photos qui sont dans le livre?
Une partie.
Ouais.
Une grande partie. Et puis, il y a beaucoup d'amis qui m'ont cédé leurs droits concernant les photos prises et j'ai ainsi pu offrir un panel extrêmement varié de tout ce que l'on peut voir à la cathédrale.
C'était difficile de convaincre un éditeur pour faire ce livre?
Ah mais c'est un exploit, c'est quelque chose qui est hors du commun et qui a nécessité une discussion. Et
ce qui est normal, un éditeur veut aussi gagner un peu de sous. Alors on va rappeler le livre, c'est La cathédrale de Strasbourg, son décor et ses mystères aux éditions du Cygne. Et vous les auditeurs, vous pouvez le gagner si vous nous téléphonez rapidement quand Jean-Paul a posé la question. Le téléphone, je le rappelle, 03 88 36 11 67. Merci Jean-Paul d'être venu jusqu'à notre radio pour parler de votre beau livre. À très bientôt et bonne chance.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher petit.